bonjour à tous et à toutes. Il ne faut jamais oublier les femmes. La France, le monde, vit des moments historiques pour de grandes causes. Paraît-il, il y avait plus de 4 millions de Français dans les rues de la France, près de 2 millions uniquement pour Paris, pour se rassembler pour la liberté. Ma prière, est-ce que le peuple de Dieu pourrait aussi se rassembler pour Jésus-Christ? Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, de voir tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination, tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus-Christ, se rassembler et crier haut et fort pour Jésus-Christ, pour l'Éternel. Mais je crois que si c'est notre prière à tous, quelque part, il y a du chemin à faire, n'est-ce pas? Il y a du chemin à faire. Du chemin à faire dans les églises, dans les cœurs. Parce que tout vient du cœur, mes amis. Tout vient du cœur. J'aimerais lire avec vous, non pas dans l'Épître aux Hébreux, mais dans l'Évangile selon Jean. Jean, chapitre 13. Vous savez ce qui est extraordinaire? Lorsque je suis venu à Jésus-Christ il y a quelques années, on m'a donné un évangile de Jean. On m'a dit, Pierre, lis. Ça te fera du bien. Et j'ai lu l'évangile de Jean. Je vais vous dire que l'évangile de Jean, je l'ai peut-être lu des centaines de fois. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque jour, lorsqu'on lit Jean, ou la parole de Dieu, on découvre des choses. Amen. La parole de Dieu est vivante. Et j'ai découvert des choses tout récemment et ça m'a fait du bien. Jean chapitre 13, à partir du verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Mes amis, rassurez-vous, je ne parlerai pas sur aimez-vous les uns les autres. C'est trop riche et c'est trop connu. Je vous parlerai d'autre chose. D'abord le contexte. Jésus se trouve dans la dernière ligne droite de son ministère terrestre. Il sait que sa dernière heure est arrivée. Il sait qu'il va donner sa vie pour ses disciples. Le chemin de la croix est juste devant lui. Jésus prend son dernier repas avec ses disciples. Il lave leurs pieds et il institue la Sainte Cène. Lors de ce repas, il annonce la trahison d'un des disciples, Judas. Les disciples sont tous perplexes et s'interrogent. Jésus leur annonce deux choses. Qui le chercherait, hein, vous me chercherez, vous ne pouvez pas venir où je vais, littéralement, c'est inutile d'y essayer. Et deuxièmement, Jésus leur annonce d'une manière énigmatique, vous ne pouvez venir où je vais. Littéralement, ça veut dire, ma mission, c'est d'aller jusqu'au bout, d'accomplir parfaitement la volonté de mon Père, personne ne pourra y défaire. En revanche, pour vous, le temps de me suivre n'est pas encore arrivé. Et Pierre pose cette question importante. Seigneur, où vas-tu ? Alors, voilà le contexte. Seigneur, où vas-tu ? Mon message, mes propos sont d'essayer de comprendre la grande affirmation de Pierre. Je donnerai ma vie pour toi. Voilà. On va relire le verset 37. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. Quelle belle promesse ! Est-elle sincère ? Qui ne donnerait pas sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ ? Quel est le chrétien qui ne serait pas prêt à se sacrifier pour Jésus-Christ ouvertement ? Quel est le disciple qui n'aimerait pas être de ceux qui ont préféré mourir pour Christ que de vivre comme un lâche ? Quel est le croyant qui ne risquerait pas sa vie pour l'amour de Dieu et l'annonce de l'Évangile ? Au fond de nous, je crois que c'est le désir de nous tous. Quelque part, nous voulons tous donner notre vie pour Jésus. Quelque part. Mais il faut marier la parole aux actes. Sommes-nous réellement prêts à vivre ce que nous déclarons au Seigneur ? Est-ce que nos paroles correspondent véritablement à ce que nous vivons ? Jésus-Christ peut-il se fier à nos actes comme à nos paroles ? Nous devons tous reconnaître qu'il y a un problème. Nous devons tous admettre que nous ne sommes pas toujours ce que nous voudrions être et que nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu veut nous amener. Nous ne sommes pas encore arrivés. J'aimerais souligner deux choses dans les paroles de Pierre. Je donnerai ma vie pour toi. En disant cela, Pierre a laissé parler son cœur naturel. Il n'a certainement pas réfléchi à la portée de ses paroles. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ le reprend tout de suite en lui annonçant son reniement. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. Et là, nous voyons dans l'attitude de Pierre ce côté charnel et humain de sa réaction. Et deuxièmement, je souligne que Pierre a posé une question fondamentale juste un petit peu avant. Et cette question dénote parfaitement son attitude et sa maturité spirituelle à ce moment précis de sa vie. Seigneur, où vas-tu? Et cette question, Seigneur, où vas-tu, est importante pour la compréhension de tout le reste. Ne pas savoir où Jésus-Christ va après 3 années où Pierre a pu voir une personne parler comme jamais sur cette terre, où Pierre a pu voir des miracles extraordinaires, Jésus prêcher l'évangile, guérir les malades, nourrir les foules, libérer les captifs, ressusciter les morts, apporter la vérité. Après 3 années d'enseignement, 3 années de vécu avec Jésus-Christ, Pierre lui pose encore cette question, Seigneur, où vas-tu? Et là, il me semble que cette question dénote que Pierre n'avait pas vraiment compris qui était Jésus. C'est ne pas le connaître. Ne pas réaliser pleinement son œuvre parmi les hommes. Ne pas entrer dans la dimension spirituelle de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est encore être aveugle. Seigneur, où vas-tu? Et quelque part, mes amis, nous sommes tous comme l'apôtre Pierre. Quelque part, nous avons besoin, plus que jamais, que le Seigneur nous enseigne sur lui-même, sur son œuvre. Parce que, comme l'apôtre Pierre, nous nous laissons facilement diriger par nos sentiments naturels, par notre cœur. Je donnerai ma vie pour toi, Seigneur. J'aime la réaction du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Pierre lui a dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Christ ne l'a pas blâmé, ni fait des reproches, et encore moins le condamné pour ses paroles audacieuses. Pourquoi Christ ne l'a-t-il pas blâmé? Parce que notre Dieu est substantiellement un Dieu d'amour et de grâce. Il ne va jamais condamner un disciple qui veut le suivre et le servir, même si ce disciple n'est pas encore prêt ou n'a pas encore tout compris. Dieu, comme un père d'amour, va laisser au disciple faire ses propres expériences spirituelles, tout en veillant sur lui. Jésus-Christ savait parfaitement, Dieu savait parfaitement que Pierre devait passer par le reniement. Et il me semble que renier son maître, a été certainement l'expérience la plus douloureuse, la plus difficile de l'apôtre Pierre. Renier son maître, alors que celui-ci était à quelques heures sur le chemin de donner sa vie pour Pierre, pour chacun d'entre nous. Renier son maître était l'expérience la plus tragique, plus terrible pour l'apôtre Pierre. Et certainement, Pierre a dû toucher le fond spirituellement, a dû toucher le fond moralement. Mais c'est aussi l'expérience la plus riche spirituellement pour l'apôtre Pierre. Parce que dans cette expérience difficile, douloureuse, Pierre a découvert qui vraiment était Jésus-Christ. Un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, celui qui donne une deuxième chance. Si je ne suis pas prêt à mourir à moi-même, je ne peux être un disciple du Seigneur. Deuxièmement, notre Dieu connaît le cœur de Pierre. Il sait que Pierre, au fond de lui, il aime le Seigneur avec ses faiblesses, avec ses lacunes, avec ses difficultés, même s'il n'a pas tout compris. Au fond de lui, Dieu sait que Pierre l'aime. Et pour l'apôtre Pierre, la chose la plus importante, même s'il a cette fougue naturelle, même s'il est enclin à se lancer, mais pour l'apôtre Pierre, la chose la plus importante, c'est qu'il aime le Seigneur. Aimer Jésus-Christ, pour Pierre, c'était la chose la plus importante. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui a dit cette parole d'encouragement, cette parole merveilleuse. Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Tu me suivras plus tard. Dieu connaît le cœur de Pierre. Dieu sait qu'effectivement, plus tard, Pierre le suivra. Dieu a vu son cœur, comme Dieu voit notre cœur, mes amis. Et ce que Dieu a vu dans le cœur de l'apôtre Pierre, c'est l'amour que Pierre a fait pour Jésus, même s'il n'avait pas tout compris. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu ne nous demande pas de tout savoir, de tout comprendre, pour commencer à l'aimer. Amen. Et notre Dieu sait que Pierre doit passer par des étapes. La vie chrétienne, c'est une vie d'étapes, où, année après année, je prends un exemple très simple. Bien souvent maintenant, dans le monde du travail, en tout cas dans le privé, on demande chaque année à remplir des objectifs. Et lorsque les objectifs sont remplis, comme par hasard, le chef nous demande de faire plus. C'est très rare qu'on nous demande de faire moins. Si on fait plus, on peut encore faire plus. Mais mes amis, c'est pareil avec le Seigneur. Nous sommes appelés à progresser, année après année, de monter. Un chrétien qui régresse, c'est un chrétien, on verra tout à l'heure, où il manque quelque chose. Nous sommes tous appelés à aller plus haut. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que lorsque nous suivons le Jésus-Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et c'est impossible de penser que la gloire de Dieu diminue. Au contraire, plus nous découvrons le Seigneur, plus nous découvrons sa gloire qui grandit. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à grandir. Et l'apôtre Pierre devait passer par des étapes. D'ailleurs, il est dit dans Luc chapitre 22, verset 32, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Hein? » Pierre, le diable vous a demandé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Donc l'apôtre Pierre devait passer par des étapes. Plus tard, dans l'épître aux Galates, alors que l'apôtre Pierre est un homme d'une maturité incroyable, a encore eu des moments de faiblesse, puisque l'apôtre Paul a dû le reprendre. Galates chapitre 2. Là encore, vous voyez, toute la vie, nous sommes appelés à passer par des étapes voulues par Dieu pour nous amener plus haut, pour nous amener plus loin avec le Seigneur. Croire que Dieu veut nous amener plus bas, c'est ne pas le connaître. Dieu veut toujours nous amener plus loin avec lui, plus haut. Alors que faut-il faire ? Puisque Dieu nous appelle à marcher toujours plus haut, plus loin avec lui. Que faut-il faire ? D'abord, venir à Jésus-Christ. Première chose, venir à Jésus-Christ. Se repentir de ses péchés, car Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Nous les hommes, nous avons fait des compartiments. Nous avons gradué les péchés. Il y a un péché qui est très grand, d'autres qui sont un petit peu moins grands, mais aussi grands, et d'autres qui sont tout petits. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour tous les péchés. Les petits, entre guillemets, les petits mensonges, les petites mauvaises pensées, pour les meurtres, pour les adultères, pour les faux témoignages. Dieu a donné sa vie pour tous les péchés. Il n'y a pas de péché qui soit plus important aux yeux de Dieu que d'autres. Aux yeux de Dieu, tous les péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ. Maintenant, aux yeux des hommes, les conséquences sont différentes. Si je vole une voiture, je devrais la restituer. C'est plus difficile de restituer une voiture que j'ai volée, avec toutes les conséquences, que si j'ai volé un stylo. Aux yeux des hommes, je suis d'accord. Mais aux yeux de Dieu, le vol, c'est le vol. Que ce soit que j'ai volé une voiture ou j'ai volé un stylo, Christ est mort pour ce vol. Je suis d'accord. Mais c'est des conséquences qui sont différentes. Mais quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est que venons à Jésus-Christ et confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Troisièmement, décidons de le suivre. Ce n'est pas tout d'apporter nos péchés au pied de la croix, mais prendre la décision de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Et ainsi, en le suivant jusqu'au bout, on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et cela, nous verrons la différence majeure entre un chrétien conduit par l'Esprit et un chrétien conduit par son cœur naturel. Se laisser conduire par l'Esprit, c'est le message du Nouveau Testament. Les apôtres nous exhortent à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et être conduit par l'Esprit, mes amis, c'est tout simplement laisser le Seigneur agir en nous. Et en laissant le Seigneur agir en nous, nous apprendrions à mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'aura plus d'importance pour nous que d'apprendre à chercher la face du Seigneur. Mes amis, je le dis pour moi-même. Moi, je suis content parce que en ce début de janvier 2015, j'ai réalisé l'importance de chercher la face de Dieu. L'importance de passer du temps avec le Seigneur. Vous savez, j'aime cette émission, des paroles et des actes. Tu dis, fais-le. Je dis que j'aime Jésus-Christ, montre-le-moi. Je dis que j'aime Dieu, montre-le-moi. Des paroles et des actes, mes amis. Et Dieu, si nous disons que nous l'aimons, alors passons du temps à chercher sa face. Passons du temps avec le Seigneur. Pas 5 minutes, ni un petit quart d'heure, mais passons du temps avec le Seigneur. La chose la plus importante, c'est notre relation personnelle. J'allais dire, notre relation dans l'ombre avec le Seigneur. Parce que ce que je vis dans l'ombre avec le Seigneur, automatiquement, ça se voit dans la lumière. Si ce que je vis avec le Seigneur est minuscule, est minus, automatiquement, ma vie sera minus, mes amis. Il n'y a pas de mystère. Dieu veut nous amener plus loin, rappelons-nous. Dieu veut toujours nous amener plus loin et plus haut avec lui. Passons du temps dans ce face-à-face avec le Seigneur. Passons du temps avec le Seigneur. Je crois que pour le chrétien, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus fort, de plus intense que de rechercher la face du Seigneur. Le reste, c'est de la philo, mes amis. Passons du temps avec le Seigneur. Et en passant du temps avec le Seigneur, on va laisser Dieu faire son œuvre en nous. L'apôtre Pierre a dû passer par des étapes importantes dans sa vie. nous aussi. Dieu veut que nous passions ces étapes. Vous savez, Dieu est un Dieu patient, très patient. Si l'étape numéro 3 n'est pas passée, il va rester sur l'étape numéro 3 pendant toute notre vie. Parce que Dieu veut que nous allions à l'étape numéro 4. C'est comme ça, mes amis. Dieu est patient. Dieu a du temps. Nous, on a le temps que Dieu nous accorde. Pour certains, c'est 80 ans, peut-être d'autres un peu plus, je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que Dieu veut que nous passions nos étapes. Et ces étapes, on peut les passer qu'en étant au pied du Seigneur, en recherchant sa face, en désirant. Vous savez, Pierre aimait Jésus-Christ. Au fond de lui, Pierre aimait Jésus-Christ. Alors, mes amis, que Dieu nous donne ce cœur qui aime Jésus-Christ. Si Dieu voit dans notre cœur que nous aimons Jésus-Christ, alors, mes amis, Dieu va nous aider à passer ces étapes. Et on va être heureux. Ça va se voir. L'Église va être bénie. Notre entourage sera béni parce que Dieu va, par son esprit, travailler notre cœur, travailler nos réactions, travailler notre caractère, travailler notre comportement, travailler nos sentiments, travailler nos paroles, travailler nos pensées. C'est ce que Dieu veut faire, nous purifier, jour après jour. Être conduit par l'Esprit, Romains 8, verset 14. On va le lire, mes amis, ça c'est... Il faut lire la parole de Dieu. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui n'aimerait pas être fils de Dieu? Tout le monde aimerait être fils de Dieu. Alors si nous sommes fils de Dieu, mes amis, laissons-nous être conduits par l'Esprit de Dieu. Hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais être conduit par l'Esprit, c'est une mort à soi permanente. C'est mourir à soi d'une manière permanente, mes amis, tous les jours, pour que Christ révèle toute la plénitude de sa vie en nous. C'est comme l'histoire, mais je reprends l'histoire de, très belle histoire de Jean-Claude, ce panier sale qui est lavé par ce torrent, par ce cours d'eau. Mais ce panier, c'est nous-mêmes. Nous sommes sales, mes amis, par le péché, par ce monde dans lequel nous vivons. Mais la parole de Dieu qui est ce torrent, l'Esprit de Dieu qui est ce torrent, va nous purifier jour après jour. Va nous purifier, comme je dis, notre caractère, notre comportement, nos pensées, nos paroles. Et nos sentiments vont changer. Et on devient plus semblable à Jésus-Christ. Et plus nous sommes transformés, plus le Christ se voit en nous. Alors que être conduit par les sentiments de la chair, Romains 8, verset 13, juste avant. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Est-ce que Dieu nous a-t-il appelé à la mort? Non, Dieu nous a appelés à la vie, mes amis. La parole de Dieu est la vie pour que nous ayons la vie. Dieu nous appelle à vivre. Et c'est vrai que plus l'Esprit de Dieu nous transforme, plus la vie de Christ se manifeste en nous. Jean le Baptiste disait, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Notre objectif, c'est de demander à Dieu que jour après jour, nous puissions diminuer pour que le Christ puisse croître en nous, pour que ça puisse se voir, que nos paroles et nos actes soient en harmonie. Alors pourquoi, quelques années plus tard, Pierre a-t-il réellement donné sa vie à Jésus-Christ? Pourquoi un disciple charnel comme Pierre a-t-il pu faire de grandes choses quelques années plus tard? Rappelons-nous, à la Pentecôte, une prédication, 3000 personnes se sont converties. Converties, c'est pas Seigneur, je veux. Non, c'est converties, baptisées, converties, devenues disciples. Pourquoi ? C'est Pierre, peut-être fougueux, charnellement, est devenu plus tard ce grand apôtre. À tel point qu'il est mort en martyr, crucifié la tête en bas. Parce que Pierre a vécu quelque chose d'extraordinaire. Pierre a été touché par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Rappelons-nous, les disciples étaient dans la chambre haute, dans la prière, en attendant la promesse du Seigneur. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sous forme de feu, langue de feu, sur chacun d'entre eux. Pierre a été touché par le Saint-Esprit. Et si moi-même, si en tant que chrétien, je ne suis pas touché par le Saint-Esprit, mes amis, je ne peux pas vivre cette vie que Dieu m'appelle à vivre. L'Esprit Saint n'est ni une option, ni un accessoire. Vous savez, dans les grosses voitures modernes, il y a plusieurs options. Mais en tant que chrétien, l'Esprit Saint n'est pas une option. L'Esprit Saint, mes amis, c'est la présence réelle du Seigneur Jésus-Christ par son Esprit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous recevrez une puissance de cet esprit et vous serez mes témoins. L'Esprit Saint n'est pas une option. C'est la présence permanente, réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans l'Esprit Saint dans ma vie, si l'Esprit Saint ne fait pas son œuvre de sanctification dans ma vie, il m'est impossible d'aimer réellement Jésus-Christ. Il m'est impossible de mettre en pratique sa volonté. Il m'est impossible d'obéir à ses commandements. Vous savez, on dit aux enfants, obéissez à vos parents. Obéir, c'est difficile, mes amis. Naturellement, l'homme ne peut pas obéir. Ou bien obéit difficilement. Mais obéir, ce n'est pas obéir 5 minutes, ni une journée. Obéir, c'est obéir tout le temps. Et ça, naturellement, l'homme ne peut pas le faire. Et sans l'Esprit Saint, mes amis, je ne peux pas obéir au commandement du Seigneur. Je ne peux pas lui être agréable. Sans l'Esprit Saint, il m'est impossible d'harmoniser mes paroles et mes actes. J'ai besoin, en tant que chrétien, du secours du Saint-Esprit promis par le Seigneur pour que je puisse vivre cette vie chrétienne. Dieu veut que nous soyons tous conduits par son Esprit. C'est sa volonté. Dieu veut que tous les chrétiens qui ont décidé de le suivre fidèlement puissent marcher par son esprit. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je dis. C'est ce que disent, ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu. Dieu veut que nous marchions tous par son esprit. Mais pour cela, il faut le désirer. Si je ne désire pas dans mon cœur que l'Esprit agisse en moi, il n'agira pas. Dieu ne force personne. Par contre, si Dieu va dans notre cœur ce désir de marcher avec lui, de lui plaire, alors il agira. Il agira avec puissance, il agira avec efficacité, il agira avec fidélité, avec amour, avec grâce. Amen. C'est ça notre Dieu, mes amis. Encore ce matin, je lisais dans le Deutéronome, ce matin, hein, c'est tout frais. Ce que, au chapitre 5, c'est Moïse qui rappelait au peuple d'Israël l'avantage extraordinaire d'avoir le Seigneur. Voilà, chapitre 4, il dit. Fut-il jamais un peuple qui entende la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu? Fut-il jamais un Dieu qui essaye de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, etc. Eh oui, nous possédons un Dieu extraordinaire. Fut-il un peuple aujourd'hui, au XXe siècle, qui est une parole vivante, qui est un Dieu vivant qui lui parle, comme nous. Nous sommes des gens privilégiés, il faut le savoir. La vie n'est pas facile, mais nous avons un Dieu merveilleux. Je disais encore hier soir, quelqu'un qui m'a téléphoné, elle me dit, oui, j'ai des problèmes de logement. Je vais poser la question. Mais dans ta vie, quelle est la chose fondamentale dans ta vie? Elle a réfléchi, mais elle n'a pas pu répondre. Je lui dis, la chose fondamentale dans ta vie, c'est d'avoir Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, le reste en découle. On s'entend, mais le reste découlera. Nous avons, mes amis, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. Le reste découle. Si je n'ai pas Jésus-Christ, j'ai des problèmes. Par contre, si j'ai Jésus-Christ dans ma vie, Dieu s'occupe de mes problèmes. La chose la plus importante, c'est d'avoir Jésus-Christ. Amen. Alors, mes amis, pour terminer, pour conclure, j'ai marqué trois objectifs. Trois objectifs qui sont à la portée de tous. Premier objectif, c'est d'apprendre à connaître Jésus-Christ. Deuxièmement, passer du temps avec le Seigneur. Troisièmement, chercher à aimer le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à chercher à aimer Jésus-Christ. Parce que si j'aime Jésus-Christ, j'ai trouvé la vie, mes amis. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse grâce dans sa miséricorde. Amen.